VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 16h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Les autorités camerounaises ont évacué au moins 200 blessés après le double attentat suicide d'hier à Kerawa, ville frontalière avec le Nigeria dans l'extrême nord du Cameroun, une région en proie aux attaques des islamistes nigériens de Boko Haram. Un dernier bilan fait état de 20 à 40 morts, Jacques Aristide.
Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux des villes voisines car l'unique établissement de santé de Kerawa ne pouvait pas les accommoder. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication.
Une jeune dame qui portait donc la bombe l'a détonée au marché du Mil et des Arachides. Malheureusement, nos compatriotes ont perdu la vie, beaucoup d'autres ont été blessés. Au moment où les autres cherchaient donc à se mettre à l'abri, fuyaient dans cette zone d'attaque, c'est le moment donc mis à profit par un autre attaquant qui portait donc la bombe, qui l'a détonné. Et là également, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes sont tombés. Au total, nous déplorons, à l'heure où je vous parle, nous déplorons une vingtaine de morts et 145 personnes ont été blessées.
5 attentats suicides attribués à Boko Haram ont frappé la même région au cours du mois de juillet, faisant une cinquantaine de morts. Le Cameroun est engagé dans une coalition régionale contre Boko Haram aux côtés du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Bénin.
Moussaga, un quartier au sud de Bujumbura, était toujours ce vendredi bouclé par des policiers et militaires. C'était ce matin. Jeudi soir déjà, un policier aurait été tué et deux jeunes blessés entre deux avenues où des tirs nourris étaient entendus. Ce quartier est parmi ceux qui ont manifesté depuis avril dernier contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, le président. Ce bouclage est fait au lendemain de la conférence de presse de quatre ministres qui ont donné un ultimatum de 3 semaines à la population pour remettre les armes qui grondent certaines nuits dans la capitale burundaise. Le point avec Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Le quartier Moussaga était encerclé ce matin par les forces de l'ordre et des militaires. Ces derniers étaient postés à chaque avenue, interdisant la population d'aller et de sortir. Les boutiques, marchés étaient inaccessibles pour les habitants de cette localité. Fer de lance depuis avril dernier des manifestations anti-troisième mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza. Jeudi soir, vers 19h, un policier qui était de garde près d'un cabaret a été attaqué à la grenade. Il aurait succombé à ses blessures et les autres militaires ont alors tiré à l'aveuglette, blessant 2 personnes selon les habitants de Moussaga. Les 4 ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Sécurité publique et de la Justice, en compagnie du nouveau maire de la ville, se sont rendus ce matin dans plusieurs quartiers contestataires pour tranquilliser. Ils demandaient également aux habitants de remettre les armes qui ne font que causer de la violence. Signalons que la police indique que les 52 jeunes arrêtés hier soir ont été relâchés ce matin pour détendre une situation qui était tendue depuis plusieurs jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Centrafrique, le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, a appelé aujourd'hui à Bangui à une approche bien plus robuste contre les groupes armés qui, dans plusieurs régions de Centrafrique, continuent de commettre de nombreux crimes en toute impunité. Les dirigeants les plus connus, qui ont tant de sang sur les mains, ne sont ni arrêtés, ni poursuivis, ni jugés, ni condamnés, a-t-il constaté avant d'appeler au renforcement de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, en Centrafrique, afin qu'elle puisse faire un usage plein et entier du mandat fort, chapitre 7, qui lui a été conféré par le Conseil de sécurité. Et maintenant, le magazine de ce journal, le dossier. Au Burkina Faso, les 16 candidats retenus pour la présidentielle ont jusqu'au 6 septembre pour déposer des recours devant le Conseil constitutionnel. L'ancienne opposition et la société civile ont toujours clairement indiqué que ceux qui ont soutenu l'an passé le président Blaise Compaoré dans son projet de modification de la Constitution doivent être écartés des élections d'octobre. Hervé Ouattara est président du CAR et l'un des leaders de la société civile burkinabé. De passage à New York, il répond aux questions de Bagassi Koura.
C'est un conseil des ministres décentralisé à Fadan-Gourma, la région est du Burkina frontalière avec le Niger, que le gouvernement a décidé l'institution de la journée continue dans l'administration publique burkinabé. Pour une surprise, s'en fit une pour les syndicats. Nobila Ouédraogo, secrétaire chargé de la formation à la CGTB, Confédération Générale du Travail.
Il y a deux jours, nous avons été reçus par les autorités du ministère qui nous ont présenté l'étude en nous disant que c'est un projet. Quand vous prenez des secteurs comme l'éducation, la santé, ce sont des secteurs assez particuliers. Alors donc, quand on essore la journée continue dans sa globalité, il faut voir jusqu'où ces secteurs-là sont pris en compte dans leurs spécificités. Même quand vous regardez le reste, ce n'est pas seulement pour les travailleurs salariés. L'administration publique, il y a les usagers. Quelles sont les dispositions qu'on prend, même du point de vue psychologique, moral? Il faut pouvoir voir quelles sont les mesures d'accompagnement. La journée continue vise en réalité à réduire les trains de vie de l'État. Est-ce que concrètement, on a pris les dispositions pour ça?
La donne journée continue préoccupe au plus haut point. C'est en conseil des ministres décentralisé à Fadan-Gourma, la région est du Burkina frontalière avec le Niger, que le gouvernement a décidé l'institution de la...
C'est pas favorable pour nous. Nous travaillons beaucoup avec l'administration. Donc quand on dit que ces journées continuent, si tu rates le matin, ça veut dire qu'il faut attendre. Tes marchandises sont venues, tu veux aller, on dit que non, ils ont fait journée continue. Je sais que le début sera dur, et ça sera dur pour notre milieu. Quand les gens vont monter le matin pour descendre à 15h, non seulement les gens sont fatigués, et c'est pas évident que les gens pour rendre une visite à nos marchandises. Parce que chez nous, généralement, c'est les heures creuses, entre 12h et 15h, que les gens ont le temps de faire des achats ou les week-ends.
La journée continue qui va changer les habitudes préoccupe aussi Madame Traoré, surtout dans son volet école.
Moi, je préfère qu'on ne tienne pas compte des écoles pour la journée continue.
C'est vrai que ça va jouer un peu sur les enfants parce qu'il n'y aura pas de suivi. Peut-être qu'il faudra instaurer le système des cantines scolaires pour les enfants qui logeront loin de l'école.
Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre de la journée continue? Suivons la réponse de Augustin Loada, le ministre burkinabé de la fonction publique.
D'abord, il faut que nous mettions en place, et nous sommes en train de finaliser ce dispositif, un système de contrôle pour que les agents soient présents à leur lieu de service. Bien entendu, il y a la question de la restauration qui doit être prise en compte, mais je sais déjà que c'est une pratique qui est répandue dans nos services, et donc l'État peut accompagner les différents acteurs, mais il appartient aux agents également de s'adapter à ce système que nous mettons en œuvre lorsqu'il y a des événements comme par exemple le FESPACO, le CIAO.
Zwana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'était notre correspondant à Ouagadougou qui nous parlait de la journée continue de son institution, en tout cas au Burkina Faso. Nous retrouverons Hervé Ouattara, le président du CAR, le citoyen africain pour la Renaissance, dans notre prochaine édition, dans moins d'une heure. Au Nigeria, l'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 2,1 millions de déplacés en 6 ans, a rapporté aujourd'hui l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, un chiffre en forte hausse par rapport aux 1,5 millions recensés jusque-là. L'augmentation a été provoquée par le récent regain des attaques des insurgés, a expliqué l'OIM. La très grande majorité des déplacés, 92%, a été accueillis dans des communautés, tandis que le reste vit dans des camps ou installations similaires. La Côte d'Ivoire et la compagnie pétrolière américaine Anadarko ont conclu un accord pour un forage exploratoire dans une zone offshore que se disputent Abidjan et le Ghana, selon un communiqué du gouvernement ivoirien publié aujourd'hui. Ce contrat de partage prévoit le démarrage des travaux d'exploration d'un coût minimum de 30 millions de dollars pour décembre. Crise des migrants en Europe, l'ONU a plaidé auprès de l'Union européenne pour l'admission de 200 000 demandeurs d'asile. Le Haut Commissariat aux réfugiés milite pour un programme de réinstallation de masse afin d'aider le flot de migrants. Félix Yepassi Zembrou.
Antonio Guterres a demandé de mettre en œuvre un programme qui obligerait tous les États de l'Union européenne à venir en aide aux réfugiés qui ont une raison légitime de solliciter une protection. Si l'Union européenne reste divisée sur la question, a ajouté le patron du HCR, la crise ne profitera qu'aux passeurs et aux trafiquants. Le Premier ministre britannique, David Cameron, a fait savoir que la Grande-Bretagne est prête à recevoir des milliers d'autres ressortissants de la Syrie, en plus des 5 000 déjà acceptés. Un incident signalé ce vendredi à Bishkek, en Hongrie. Des centaines de réfugiés ont refusé de descendre d'un train à destination de l'Allemagne, qui a étendu à 800 000 sa capacité d'accueil des migrants. Les passagers du train refusaient notamment de se faire recenser et parquer dans des camps en violation de la loi hongroise. Par ailleurs, 300 migrants ont mis à sac un camp d'accueil à Roski, près de la frontière serbe, selon les autorités hongroises.
Et le vice-président américain Joe Biden a confié hier soir qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait tenter de conquérir la Maison-Blanche en 2016 en se présentant aux prochaines élections présidentielles, n'étant pas sûr de pouvoir affronter une campagne sitôt après le décès de son fils, Jean-Claude. Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous, c'est dans moins d'une heure, 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.